Vous écoutez, on lit pour vous.
Les études sont moins payantes qu'avant, mais... Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 29 août 2024 dans la presse. Contrairement aux billets de loterie, les diplômes procurent à tout coup un gain financier notable. Mais pour les hommes, la poursuite d'études universitaires s'avère bien moins rentable qu'il y a quelques années. Mettons tout de suite une chose au clair. Les Québécois qui détiennent un diplôme universitaire continuent d'être les mieux rémunérés de la société. Leur sort s'améliore plus longtemps au cours de leur carrière et ils passent moins de temps au chômage. Mais à quel point est-il lucratif de passer quelques années à l'université? Quand on recule d'un pas et qu'on regarde les données historiques, on constate que l'écart salarial entre les diplômés universitaires et les titulaires d'autres types de diplômes s'est rétréci de manière importante et rapide ces dernières années. Chez les hommes en milieu de carrière, 40 à 49 ans par exemple, l'écart est passé de 81 % à 55 % en seulement 7 ans, révèle l'Institut du Québec dans une nouvelle étude dévoilée aujourd'hui. Plus concrètement, cela signifie qu'en 2017, lorsqu'un diplômé universitaire gagnait 100 $, les travailleurs qui avaient au plus une cinquième secondaire touchaient 55 $. Aujourd'hui, par rapport à ces mêmes 100 $, le gain de l'employé moins diplômé s'élève à 65 $. L'effritement de l'avantage salarial issu des études s'explique ainsi. La rémunération chez les travailleurs moins scolarisés a connu une croissance rapide. Comme on le sait, les besoins criants de main-d'œuvre dans certaines industries qui exigent peu d'études mais offrent une rémunération alléchante ont fait bondir les salaires. C'est le cas dans la construction où les hommes sont surreprésentés ainsi que dans le secteur minier. Les hausses successives du salaire minimum qui touchent plus directement les salariés peu scolarisés explique aussi le phénomène. Depuis 2017, le salaire minimum a crû de 40 % tandis que l'ensemble des salaires a augmenté de 34 % La situation est un peu différente du côté des femmes. Celles qui ne décrochent pas de diplôme travaillent le plus souvent dans le secteur de la santé, de l'assistance sociale ou dans la vente au détail, où elles occupent des emplois peu lucratifs par rapport à ceux dans la construction. Davantage que les hommes, les femmes ont donc toujours eu intérêt à décrocher un diplôme universitaire pour bien gagner leur vie. Cela dit, depuis 2017, dans la cohorte des 40-49 ans, on note aussi une certaine réduction de l'écart salarial entre les diplômés universitaires et les autres. Il est passé de 89 % à 76 % En somme, entre 2017 et 2023, le salaire ajusté pour l'inflation des travailleurs détenant un diplôme d'études secondaires ou moins s'est ainsi accru de 10 % alors que celui des diplômés d'études professionnelles ou collégiales a augmenté de 4 % Pendant ce temps, la rémunération des diplômés universitaires a plutôt diminué de 3 % calcule l'Institut du Québec. Rien de réjouissant pour les jeunes qui étudient pour décrocher un bac ou une maîtrise, mais d'autres données devraient les convaincre de persévérer. Que l'on soit un homme ou une femme, l'avantage de posséder un diplôme universitaire s'accentue clairement avec l'âge. L'écart passe de 25 % au début de la vingtaine à près de 50 % dans la trentaine et à un impressionnant 71 % à partir de 45 ans. Ce phénomène s'explique par la stagnation des salaires en cours de carrière qui arrive plus tôt pour les personnes moins scolarisées, soit vers 40 ans. Les diplômés universitaires continuent de profiter d'augmentations pendant 5 ans en moyenne. Non seulement le niveau de vie s'améliore plus longtemps, mais au bout de la carrière, ces augmentations salariales ne sont pas anodines en matière d'épargne-retraite. Les personnes plus scolarisées sont par ailleurs plus susceptibles d'investir dans leur formation pour obtenir un titre professionnel ou d'effectuer un retour aux études pour accéder à un poste de gestionnaire, ce qui explique la progression salariale continue. À l'inverse, les travailleurs moins scolarisés peuvent présenter des lacunes sur le plan des compétences essentielles, ce qui peut grandement limiter leur accès à des formations tout au long de la vie active. Note l'Institut du Québec. L'organisation observe aussi que les diplômés universitaires sont plus habilités à s'adapter aux innovations technologiques et à résister aux contre-coups économiques. D'ailleurs, aucun surplus de diplômés n'a été observé dans les dernières années. La demande pour de tels travailleurs a plutôt surpassé l'offre, même si la proportion de diplômés universitaires ne cesse de bondir. Autre bonne nouvelle pour ceux qui se sont endettés pour poursuivre de longues études. Même si la proportion de diplômés universitaires croît, la valeur des diplômes se maintient. Bref, il demeure avantageux financièrement de passer quelques années à l'université. Mais ce parcours de vie n'est pas pour tout le monde et les autres types de diplômes ne sont pas synonymes d'échec, au contraire. Comme le dit si bien la PDG de l'Institut, Emma Braham, une société en santé a besoin de tous les profils. L'important est de continuer de combattre le décrochage scolaire tout en gardant en tête que nous avons un grand besoin de travailleurs sur les chantiers de construction, dans nos usines et dans le réseau de la santé. C'était « Les études sont moins payantes qu'avant, mais » un texte de Marie-Ève Fournier paru le 29 août 2024 dans La Presse.
Un traitement prometteur contre le sida serait 1000 fois moins cher en version générique. Un texte de l'Agence France-Presse à Paris paru le 23 juillet 2024 dans Le Devoir. Un traitement jugé très prometteur contre le sida qui coûte quelque 40 000 $ par personne chaque année pourrait tomber autour de 40 $ en version générique, selon une estimation dévoilée mardi le 23 juillet 2024 par des chercheurs à la 25e Conférence internationale sur le sida. Cet antirétroviral, développé par le géant américain Gilead, à partir de la molécule lenacapavir, pourrait changer la donne contre le sida, jugent nombre de spécialistes internationaux. Il nécessite seulement 2 injections par an, ce qui le rend bien plus facile à administrer que des comprimés quotidiens, et il est aussi testé comme médicament préventif, pré-EP, pour éviter l'infection avec une efficacité de 100% selon une récente étude préliminaire. Ce traitement, qu'on reçoit comme un vaccin, pourrait arrêter la transmission du VIH s'il était administré à des personnes à risque élevé, comme des homosexuels ou bisexuels, des travailleurs du sexe, des prisonniers ou des femmes jeunes, notamment en Afrique, a déclaré à l'AFP Andrew Hill de l'Université britannique de Liverpool qui a présenté l'étude. À environ 40 000 $ américains par an, son coût actuel dans différents pays comme les États-Unis, la France, la Norvège ou l'Australie, le lenacapavir est hors de portée pour la plupart des malades. Si le géant américain permettait sa fabrication en version générique, ce coût pourrait chuter à 40 $, ont calculé les chercheurs, qui ont présenté leurs travaux, non revus par des pairs, à Munich. Ils ont appuyé leur évaluation sur une hypothèse de commande pour 10 millions de personnes. Pour estimer le coût d'une version générique, les chercheurs ont, entre autres, discuté avec d'importants fabricants de génériques en Chine et en Inde, déjà producteurs de briques du traitement, a précisé Andrew Hill. Il y a 10 ans environ, cette équipe de chercheurs avait estimé que le traitement contre l'hépatite C de Gilead, alors facturé 84 000 $ par patient, pourrait dégringoler à 100 $ si des génériques étaient autorisés. Désormais, cela coûte moins de 40 $ de soigner l'hépatite C, a glissé le scientifique. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, a exhorté Gilead, dans un entretien avec l'AFP, à entrer dans l'histoire en autorisant la fabrication de génériques de son antirétroviral. Gilead, objet d'une campagne de pression de nombreuses personnalités et ONG, a affirmé ces derniers mois discuter régulièrement avec les acteurs de la lutte contre le VIH, y compris les gouvernements et les ONG, pour un accès du traitement au plus grand nombre possible. Si quelque 30 millions de personnes vivant avec le virus du sida dans le monde bénéficient d'un traitement antirétroviral, environ 10 millions en sont privés. Environ 1,3 million de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH en 2023. C'était « Un traitement prometteur contre le sida serait 1000 fois moins cher en version générique », un texte de l'agence France-Presse à Paris, paru le 23 juillet 2024 dans Le Devoir.
La rentrée littéraire 2024, littérature québécoise à surveiller. 10 suggestions de lecture de Philippe Fortin, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Déjà, les crépuscules arrivent un peu plus tôt qu'il n'y a pas si longtemps. Les soirées se cristallisent, les aubes tempérées de juillet ont cédé la place à de sournois petits matins frisquets et l'automne s'insinue dans les membres des arbres. Force est de constater que l'été en est au dernier jour du tirage de sa finalité. Tout n'est pourtant pas perdu, rassurez-vous. L'impressionnante roue dentelée du renouvellement de la production littéraire a repris son élan. Les maisons d'édition ont fourbi leurs armes, peaufiné leurs plans, préparé leurs sorties. Le milieu littéraire québécois, hétéroclite et original à souhait, continue cette année encore d'asseoir durablement sa pertinence, sa portée et son rayonnement tout en préservant son unicité, laquelle assurément participe pour beaucoup de ses récents succès à l'international. Voici, sans plus attendre, l'essentiel des sorties à ne pas manquer cet automne. 1. Amiante, Sébastien Dulude, chez La Peuplade. Dans une langue dont il convient de souligner la splendeur et le sublime, ce roman raconte les tribulations, les atermoiements et les drames du jeune Steve Dubois dans le Thetford Mine de la fin des années 1980. Au gré d'une amitié particulièrement tragique, avec juste ce qu'il faut de non-dit et d'ellipses, l'enfance y est abordée avec un brio remarquable et une authenticité aussi poignante que juste. Truffé de références culturelles habilement choisies et articulant un propos sensible et délicieusement nostalgique, ce livre est appelé à casser la baraque. Rien de moins. 2. Les sentiers de neige. Kev Lambert, chez Héliotrope. Après avoir remporté le Médicis avec « Que notre joie demeure », Kev Lambert nous revient avec un roman où l'enfance qui s'effiloche emprunte des chemins sinueux, peuplés de monstres et de personnages étranges, tandis qu'Amy, Anne et Zoé traversent le temps des fêtes entre Noël et le jour de l'an. Tantôt inquiétant, comme un cantique, tantôt plus merveilleux que des anges, ces sentiers de neige les mèneront vers de terrifiantes destinées. 3. La part de l'océan. Dominique Fortier, chez Alto. En 1850, Herman Melville rencontre Nathaniel Hawthorne, un moment décisif qui imprègne son chef-d'œuvre Moby Dick. Pour Melville, ce roman devient un véhicule pour exprimer un amour non réalisé, une histoire qui n'a pas pu naître autrement que dans les pages de son livre inachevé. À cette trame historique, Fortier ajoute une dimension contemporaine, explorant les liens entre écrivains qui se rencontrent d'abord à travers leurs écrits, capturant les élans humains qui engendrent les œuvres littéraires, ainsi que le désir universel d'incarner, à travers l'art ou la vie, la beauté infinie du monde terrestre, marin et céleste. 4. Rivière des Prairies. Mariana Mazza, chez Québec Amérique. Après Montréal-Nord, qui racontait la petite fille qu'elle fut, Mariana Mazza évoque les tumultes émotionnels de l'adolescence, période difficile s'il en est, où quête d'identité, conscience de soi et premières expériences se nourrissent l'une l'autre. Mariana se distingue toutefois des autres par un avantage certain. Elle sait déjà quelle voie elle va suivre dans la vie. Portée par un talent naturel, elle aspire à devenir une joueuse de soccer professionnelle. 5. Tout brûlé. Lucille de Pesloane, chez Leméac. Stella, à la fois protagoniste et narratrice, remonte l'arbre généalogique des abus subis au sein de sa famille. 30 ans après les événements, elle prend la décision courageuse de porter plainte, de dénoncer les agresseurs et leurs complices pour protéger les enfants. Sa vie bascule alors. Aux yeux de la société, elle devient l'agresseuse, celle par qui le mal est arrivé. Histoire de rébellion et de colère, tout brûlé, confronte, émeut et fait réfléchir. 6. Du côté du Sichuan. Philippe Chagnon, chez Hamac. Récit subtil et ironique où l'absurde du quotidien se mêle à une réflexion profonde sur la société contemporaine. Inspiré par les tourments de l'époque actuelle, ce petit roman débute directement après les événements de L'essoreuse à salade, sans toutefois en être la suite. Structuré en 3 parties, Du côté du Sichuan explore différentes versions d'un même événement. L'enlèvement présumé de Joanie par des criminels. Le lecteur est invité à suivre ces récits variés avec curiosité, cherchant à démêler par lui-même cette situation inhabituelle. La quête de la vérité devient ainsi le fil conducteur d'une enquête littéraire pleine d'esprit. 7. La joie des fous. Éric Mathieu, chez Tête Première. Imprégné d'une atmosphère dystopique oppressante, ce roman plonge au cœur d'une ville asphyxiante et déshumanisée où Clara, universitaire et poète, vit un cauchemar quotidien. Abandonnée par son conjoint, Arnaud, elle s'installe dans une chambre délabrée d'un hôtel décrépit, passant ses journées à épier l'appartement d'Arnaud et de sa nouvelle compagne, Annabelle. Clara se trouve alors captive de ses propres visions, résultant de la fragmentation de la réalité et de son désespoir grandissant. À travers le prisme d'un personnage féminin, en proie à l'alcoolisme et à la dépression, ce roman explore les relations toxiques et les mécanismes menant à la violence. 8. L'irréparable. Pierre Sanson, chez Héliotrope. 5 ans après Le Mammouth, Pierre Sanson nous livre un roman de la confrontation posant une question choc. Que peut-on véritablement réparer lorsque l'irréparable est commis? Eugène Roland, spécialiste en écrits anciens et débusqueur de manuscrits contrefaits, partage son savoir à l'université tout en cherchant à aborder la soixantaine avec sérénité. Mais une débâcle professionnelle et un monde contemporain de plus en plus hostile le convainquent de son inéluctable obsolescence. Déterminé à révéler la supercherie dont il se sent victime, le paléographe amorce une enquête qui échappe rapidement à tout contrôle. 9. Je travaille dans le bruit. Yannick Marcoux, chez XYZ. Inspiré par sa riche expérience de serveur et sa connaissance aiguë de la furie désespérée des quarts de travail, Yannick Marcoux nous livre un roman original qui frôle le huis clos en faisant du bar le personnage central de son histoire. À la fin des années 1990, Félix devient serveur à l'Uchronie, un repère du Mile End où résonnent les accords jazz. Pendant ses 16 années de service, Félix affine son oreille musicale et croise une multitude de personnages, réels ou chimériques, jusqu'à se fondre presque entièrement entre les murs du pub. Au cœur de cette atmosphère électrisante, il vit pleinement. Cependant, le quartier change. L'Uchronie voit sa clientèle se métamorphoser et un certain âge d'or semble sur le point de se terminer. 10. Voyage à la Villa du Jardin Secret. J.P. Chabot, avec l'aide d'Audrey-Anne Bélanger, chez Le Cartanier. Pendant un voyage au Costa Rica, J.P. lit à Audrey-Anne le livre qu'il écrit sur elle, dans lequel il raconte leur rencontre, leur amitié, le quotidien de la jeune femme. Elle vit avec l'ataxie de Friedreich, une maladie dégénérative qui lui occasionne des douleurs, la cloue dans un fauteuil roulant et altère sa proprioception. Le handicap, les soins, la difficulté de vivre, la résilience, l'enseignement et le pouvoir de la littérature s'amalgament dans ce roman poignant et lumineux, empreint des vulnérabilités des protagonistes. Même si, avec ses moult détours, le récit s'avère labyrinthique, comme le dit l'auteur, on suit le fil aisément, happé par la force et la beauté de leur relation, par le rire d'Audrey-Anne qu'on a l'impression d'entendre. Quoi d'autre? Les titres dont il fut question ici ne représentent qu'une petite partie de tout ce qui est ou sera bientôt disponible sur les rayons. Vos librairies indépendantes ont, entre autres, ceci de formidable, qu'elles sont habitées par des libraires de tous âges et de toutes obédiences, qui, d'abord, connaissent vraiment les livres et, surtout, agissent et conseillent en toute indépendance, justement. Au nom de l'ensemble de mes collègues, je vous incite à profiter pleinement de notre expertise, laquelle trouve précisément son sens et sa raison d'être à votre contact, à vos côtés, en marge des algorithmes, des tendances et des impératifs commerciaux. Vous côtoyer est un honneur, vous conseiller est une joie et gagner votre confiance est un privilège que nous chérissons. On se voit en librairie? C'était la rentrée littéraire 2024, littérature québécoise à surveiller. 10 suggestions de lecture de Philippe Fortin, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.
Le marquage du stationnement tester dans des rues résidentielles un texte d'Isabelle Ducas, paru le 25 août 2024 dans la presse. Pour tenter de mettre au pas les automobilistes qui se stationnent mal dans les rues résidentielles en prenant trop d'espace ou en bloquant les entrées privées, un projet de marquage au sol des espaces de stationnement est en cours dans le quartier Villeray. Le projet pilote, amorcé fin août 2024, permettra aussi de mieux faire respecter les interdictions de stationner à une distance de 5 mètres des intersections et devant les bornes fontaines, selon les responsables. Pour les places tarifiées, le marquage au sol aide les automobilistes à se repérer. Notre hypothèse, c'est que ça faciliterait aussi le respect des règlements dans les zones résidentielles, explique Laurent Chevreau, directeur général de l'Agence de la mobilité durable, AMD, qui mène ce projet en partenariat avec l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel par extension. On tentera aussi, en analysant les résultats du projet, de vérifier si l'identification des espaces permet de stationner plus de véhicules en bordure de rue. C'est pour cette raison qu'on a choisi un secteur avec une grande densité de population où il y a une pression sur le stationnement dans les rues et des zones avec permis, dit M. Chevreau. Le projet concerne environ 1200 espaces qui se trouvent dans un quadrilatère formé des rues Fouché, Villeray, Boyer et Le Mans. Influence plutôt que répression. Un premier projet pilote concernant 150 places avait été mené l'année dernière dans le quartier Hantzik où on avait remarqué un meilleur respect de la réglementation. Laurent Chevreau fait valoir que ce projet permet de tester, pour un coût minime, environ 2 000 $, la théorie du nudge, littéralement coup de coude. Selon cette théorie, de petites interventions peuvent avoir pour effet d'orienter les comportements des citoyens dans une certaine direction. On n'est pas dans la répression, mais plutôt dans l'influence, note-t-il. Les résidents des rues concernées ont reçu un avis dans les derniers jours pour les informer de la mise en place du projet qui pourrait s'étendre à d'autres secteurs s'il est jugé efficace. C'était Le marquage du stationnement testé dans des rues résidentielles, un texte d'Isabelle Ducas, paru le 25 août 2024 dans la presse.